7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Trois femmes journalistes sur la planète pour commenter l'actualité de leur choix. Hello les tchatcheuses.
Hello.
Bonjour. Vibeke Knupraslin, hi.
Hi.
Journaliste Emmanuel. Norvégienne. Veiju Naravan, journaliste indienne. Namasté.
Namaskar.
Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visao. Bom dia, Ana.
Bom dia, Ana.
Et ce ne sont pas les sujets qui manquent pour tchatcher dans ce vaste monde. On parlera bien sûr du phénomène Michelle Obama, du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, de sa vision des femmes, du débat sur l'avortement en Norvège et d'une drôle de demande d'un Hollandais qui saisit la justice pour changer d'âge. Non, vous ne rêvez pas. Et en fin d'émission, reportage d'Alice Milo qui a assisté à des rencontres pour célibataires d'un genre nouveau et assez dingue. Vous en saurez plus à la fin de l'émission. C'est pour ça qu'il faut tout écouter, les voisins et les voisines. Et bien sûr, le téléphone WhatsApp n'est jamais fermé chez nous si vous voulez commenter. 33 1 84 22 71 71.
Cuéntame qué te pasa.
I would like to make a few comments.
Comment ça passe ça?
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Tu vas non, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et tout de suite, comment y échapper, Michelle Obama en promo pour la sortie mondiale de son livre « Becoming, devenir » en français, traduit dans une trentaine de langues.
Je dis toujours qu'une maison reste une maison et que c'est ce que vous apportez à l'intérieur qui fait que ça devient votre maison. Souvent, les gens me demandent si la Maison Blanche me manque. Ce n'est pas la maison en elle-même qui me manque, parce qu'en partant, nous avons emporté avec nous tout ce qui était important. Je parle de la famille, des valeurs et de l'amitié. La Maison Blanche est une maison magnifique et historique. Et ça a été un honneur pour nous d'y vivre. Mais elle est le reflet des gens qui y vivent.
Michelle Obama, elle est partout dans tous les médias. Le livre a été édité à 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Tournée prévue dans des salles de plus de 20 000 places. Tous les tickets sont sold out, comme on dit déjà, vendus de $30 à $3 000. Beaucoup, beaucoup mieux que Beyoncé, alors qu'elle chante pas, qu'elle parle seulement. Elle incarne, je dirais, une part du rêve américain. Mesdames, vous allez faire les sales journalistes, vous allez parler d'un livre que vous n'avez pas encore lu, mais vous êtes excusées, il vient de sortir à peine.
J'ai lu en grande partie.
Ah, en grande partie, Veiju.
Et
pas seulement les bonnes feuilles de la presse.
Non. J'ai eu beaucoup de choses de mon copain hein, au Guardian qui m'a filé les PDFs. et j'ai pas pu tout lire. Mais je dois dire, dans ce livre, ce qui frappe, c'est pas du tout qu'elle lamente son sort ou quelque chose. Elle sort comme une famille qui fait partie du Best of America. Et c'est pas l'histoire de « Ah, ma famille a souffert parce qu'on était des Noirs et on était issus des esclaves » et tout ça. C'est, il y a une espèce de positivisme dans ce livre qui est étonnamment frappant. Elle continue à parler de sa famille comme un socle où il y avait amour, valeur, des choses comme ça que habituellement on n'associe pas à la communauté noire.
Ouais, et malgré les difficultés qu'elle a traversées de couple, d'infertilité. Mais est-ce que c'est pas ça aussi finalement ce qui plaît tant à l'Amérique, de se préoccuper de sa famille, de son mariage, de son couple?
Oui, mais aussi...
Et de l'altérité aussi, et des autres, de la communauté.
Bien sûr, mais ce qu'elle combine avec tout ça, c'est le fait qu'elle est allée aux grandes universités, qu'elle était quelqu'un qui avait une carrière. Elle était effectivement le senior vis-à-vis d'Obama dans le cabinet d'avocats où il a atterri quand ils se sont rencontrés pour la première fois.
Mais oui, c'est lui qui était le jeune stagiaire. Hein.
Ouais.
Mais il a pas mis très très longtemps à la séduire quand même.
Qu'est-ce que cette histoire et cette icône racontent de l'Amérique qui a aussi en même temps élu un type comme Trump ?
Elle parle tellement justement de la division de ce pays et elle nous parle aussi d'une domaine.
Il y a des gens qui ont acheté le livre et qui ont voté Trump en même temps, forcément.
Oh non, forcément, mais il y a pas, peut-être pas. Mais en sciences politiques, il y a un domaine qui est de plus en plus important, c'est celui de la psychologie. politiques, autant des lecteurs que des partis politiques ou des leaders politiques. Et je pense que c'est un cas typique, celui-là, d'un pays qui est aujourd'hui tiré avec malin plaisir vers ce qu'il y a de plus bas, de plus dégradant chez l'être humain par le président qui les dirige et qui est leur modèle en ce moment, à un point où on voit maintenant des jeunes lycéens faire une photo de groupe au lycée en faisant le salut nazi, comme celle qu'on a vue dernièrement, et toutes les choses dégradantes qui sortent dans cette société. Et en même temps, cet autre modèle proposé par les Obama est très nettement par Michelle Obama, qui reste une icône aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis.
Qui réexplique ce
et qu'au-delà d'être noire, une femme noire qui est sortie, qui a toujours plané, surfer sur ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain, elle propose vraiment de...
Mais qui réexplique tout simplement ce qu'est le bien et le mal. Moi, je dirais que c'est quand même assez simple.
On peut aussi voir ça d'une façon blanc et noir, sans jeu de mots.
Non, mais quand elle reparle de la dignité, de sa sincérité, de l'altérité, de la résilience,
mais
tout
elle
ça...
l'a toujours fait.
Oui, elle l'a toujours fait.
Ses discours sont extraordinaires. Ses discours politiques sont extraordinaires. Et vous voyez des salles qui sont en pleurs et pourtant il n'y a pas de trémolo et pas d'émotivité provoquée.
Les vidéos sont déjà galvanisantes.
Mais elle ne veut pas faire de la politique.
Alors, quand elle dit « je souhaite que mon livre lance une conversation nationale tout en disant qu'on n'a pas besoin de faire de la politique pour s'occuper des autres ».
Elle a toujours détesté tout ce qui était politique. Et elle dit que pendant les 8 années qu'elle a passées dans la Maison Blanche, elle a vu quand même les attaques contre son mari, sur s'il était né aux États-Unis ou pas, s'il était vraiment musulman ou pas.
Et il pour ça, elle ne pardonnera jamais à Donald Trump, c'est ce qu'elle a dit.
Absolument. Il y a ces choses qu'elle ne pardonnera pas, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a vu la politique et le vrai visage de politique de tellement près qu'elle dépourve une espèce de détestation pour tout ce qui est politique. Et elle dit nettement et clairement, jamais est-ce que je postulerai pour un office quiconque. Je ne serai jamais candidat.
Bon, en tout cas, elle a 54 ans, c'est l'âge du bilan, mais en même temps, c'est une époque où il y a encore tellement d'années pour accomplir des choses qu'il lui reste du temps pour changer d'avis ou pour...
Non, je voulais juste dire que je trouve que c'est intéressant aussi qu'elle explique en tant que femme et épouse tout ce qu'elle a sacrifié pour la carrière de son mari. Il y a peu de femmes qui auraient accepté d'en faire autant. Et en tout cas, de l'admettre. Donc ça aussi, je trouve que c'est un côté...
Là, elle est bien remboursée, hein, finalement.
Oui, maintenant, oui. Et grassement aussi.
On remonte de quelques jours la machine du temps. Les élections de mi-mandat, c'était le 6 novembre dernier aux États-Unis. Et là aussi, on a pas mal parlé des femmes.
We need more women in charge.
You've probably heard 2018 is a big year for women in politics.
The year of the woman.
The year of the woman.
The year of the woman.
Ouais, l'année des femmes, c'est peut-être vite dit, hein, Vaijou Naravane.
Oui, c'est très vite dit quand on voit à la fois, bon, c'est vrai, certaines femmes qui font leur entrée dans la Chambre des représentants et aussi au Sénat aux États-Unis, mais à la fois, on voit le cas d'Asia Bibi, on voit tellement de
choses contrastées. Non, mais là, attendez, ne repartons pas tout de suite au Pakistan.
Oui,
restons aux États-Unis,
oui,
parce que sinon, nos auditeurs... Bon.
Mais même aux États-Unis, je veux dire, il y a tellement de problèmes de MeToo, d'harcèlement sexuel, etc.
Non, mais donc, pour rester sur les élections de mi-mandat...
C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes qui sont entrées aux politiques, beaucoup de diversité. Il y a des Américaines indiennes, LGBT.
C'est pas une nationalité, mais bon.
Non, mais il y a des Noirs, donc il y a une diversité de orientation sexuelle, de couleur, de race, d'ethnicité, de
religion.
Pauvreté.
Il y a des musulmans.
Vous venez exactement.
Rachida Tlaib, 42 ans, première femme musulmane à entrer au Congrès, notamment.
Tout à fait.
Ilhan Omar, issue d'une famille somalienne.
Mais ce qu'il y a pour moi de plus intéressant dans cette vague féminine et dans ces femmes spécifiquement, c'est le fait qu'elles n'étaient pas taillées pour la politique, pour la plupart, elles ne sont pas... Ce qu'elles voulaient, c'est changer les choses. Et en se disant, puisque ceux qui nous représentent ne changent pas les choses comme nous le voulons, au lieu de rester à la maison sans voter, elles ont pris leur clic et leur claque, elles sont allées se candidater, elles ont gagné les primaires le système politique américain avec tous ses défauts le permet, le nôtre, les nôtres, je ne suis pas sûre.
Attendez, le nôtre, je ne suis pas sûre. On est à quoi en parité au Sénat, 23% de femmes, Chambre des représentants, 19% de femmes. La montagne
a accouché d'une souris. Je ne parle pas seulement de la parité, non. Je parle aussi de l'origine sociale des femmes, etc. Où ces femmes-là, a priori, une d'elles, la plus connue, Alexandria Ocasio-Cortez, elle dit dans son clip de campagne, une femme comme moi ne devrait pas être candidate. Ouais. Voilà, elle commence comme ça. Et c'est ça aussi.
Mais par rapport aux chiffres, aux résultats, à la parité qui bouge quasiment pas, c'est de la politique symbole, c'est quoi ?
Mais ça bouge quasiment pas, parce que moi je connais pas les chiffres d'avant.
Bah, les chiffres d'avant, c'est à peu près quand même similaire en termes de pourcentage. Hein.
Ça ne bouge pas en nombre de chiffres, mais ça bouge en termes de qualité et le profil des personnes qui sont élues. C'est ça qui bouge. Mmh. Et là, on voit vraiment une nouvelle face, en tout cas de la partie démocrate qui est dévoilée ici. Une partie qui quand même soutient plus les femmes, soutient plus la diversité.
56% des femmes ont voté démocrate, donc plus que les hommes.
Oui, parce qu'elles ne supportent pas, sans les femmes de la classe moyenne qui ne supportent pas le président actuel Donald Trump et sa position notamment sur la famille, sur les femmes, etc. Mais ces femmes qui ont été élues, c'est une vaguelette, on va vous l'accorder, mais en termes de quantité, mais elles définissent aussi une autre politique. Pour les États-Unis, elles disent on n'accepte pas l'argent des entreprises parce que c'est ça qui est le cancer de la politique aux États-Unis et pas que, partout ailleurs. Elles disent on veut changer le système sociétal américain, on veut des choses incroyablement révolutionnaires. Elles veulent l'école gratuite pour les enfants, elles veulent une retraite digne pour les plus âgés, elles veulent la sécurité sociale, la couverture maladie pour tout le monde.
L'école est gratuite pour les enfants aux États-Unis. Sauf au jardin d'enfants pour 90% des enfants américains, puisqu'ils fréquentent l'école publique. Après, quel type d'école et quelle qualité, c'est une autre question.
Il y aura un changement important. Enfin, d'après ce qu'on sait, c'est que la leader, parce que ça sera une femme de la maison des représentants, sera une femme, probablement Nancy Pelosi. Et ça veut dire que c'est elle qui va être l'opposante numéro un à Donald Trump.
Les femmes ont versé 159 millions de dollars selon le Center for Responsive Politics, 2,5 fois plus qu'en 2016. Il n'y a pas à dire, l'argent c'est le nerf de la guerre, si les femmes verse plus.
Oui, et il y a un vrai changement parce qu'il y a une vraie colère chez les femmes. Et d'où sort ce colère? D'un côté, il faut dire que la classe qui vote et la classe qui se met en colère est très particulière. Ce sont des femmes qui sont éduquées, blanches pour la plupart, issues des classes moyennes. Et elles ont vu la nomination de Kavanaugh, le juge Kavanaugh, malgré les accusations, mais ils ont vu l'état dans lequel on avait mis cette Dr. Ford qui portait des accusations. Elles ont vu tout ce qui est sorti de MeToo. Ils ont vu toutes les dégueulasseries que sort de la bouche de Donald Trump tous les jours. Et c'est ça qu'elle n'accepte pas.
Et cette colère, effectivement, on va l'entendre probablement de plus en plus. Vous restez avec nous, les tchatcheuses. Romain Dubrac et Michael Simon vous ont concocté un petit programme musical comme vous les aimez, aux petits oignons.
Acostumbraba a salir cada mañana, tratar de encontrar una desesperada, una extranjera de esas necesitada de sexo.
Calidad garantizada.
Él es un chamaco fácil que domina idioma, caléntico pa' cualquier madama. Y ese día se puso la bota, tuvo suerte, encontró lo que buscaba finalmente. Urgente y sin tanto protocolo, fueron al hotel y el destupió todo su poro. Luego fue
bueno y soltó el paripé de que bien la pasé, te gustó nené.
C'est Alcouette en direct sur RFI chez 7 milliards de voisins, Sin Protocolo. Ana Navarro Pedro, un homme vous séduit tout particulièrement en ce moment. C'est le rendez-vous des tchatcheuses, je le précise si vous prenez l'émission en cours de route.
Vous ne le diriez même pas en blaguant, s'il vous plaît.
Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro. Et comme vous êtes journaliste portugaise, vous êtes particulièrement bien informée.
Alors, il y a un aspect, on a tout entendu de cet individu, il est extrêmement à droite, c'est un petit peu nostalgique de la dictature militaire qui trouve au Brésil, qui trouve que la dictature n'a pas tué assez d'opposants à son époque, dans les années 60, 70-80. Bref, un type qui finit ses discours avec en faisant le signe d'une arme qui tire et qui propose de tuer les bandits, etc. Eh bien, c'est un individu qui dit aussi des femmes à une députée, vous êtes trop moche pour être violée.
Oui, c'était il y a 15 ans, mais c'est vrai, il l'a dit.
Ça reste. Un type qui dit qu'il a fait 4 garçons et à la 5e fois, il a eu une faiblesse de virilité et il a fait une fille. Bon, ce genre d'individu-là, qui prône que les femmes ne doivent pas gagner autant que les hommes, parce qu'elles ne le méritent pas, eh bien, cet individu-là a eu quand même une progression spectaculaire dans le vote féminin au Brésil entre les deux tours. Et ceci notamment...
42% des Brésiliennes ont voté Bolsonaro.
Voilà. Et puis, ceci après la grande mobilisation de femmes au Brésil dans le mouvement Pas lui, il non, et qui, effectivement, dont l'impact a été apparemment nul sur l'intention de vote. Et la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que...
Bon,
Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Brésiliennes ? Il faut déjà voir, un tiers n'a pas voté, un tiers des Brésiliens, des électeurs n'ont pas voté, il reste 2/3, ces 2/3, il a eu 55% des votes.
Bien que le vote soit obligatoire, sous peine d'amende au Brésil.
Quand même, il y a un tiers qui n'a pas voté. Et donc, il a eu 50% des votes, ces 55%, déjà on est donc à 55 millions, on va dire, il y a eu quand même une bonne partie, 42% à peu près des femmes qui ont voté pour lui. Et donc, comme disent certaines spécialistes universitaires brésiliennes, on ne peut pas dire que c'était que l'élite brésilienne qui a voté pour lui, des femmes. Oui, l'élite brésilienne était là, les femmes de l'élite de la classe moyenne haute, ont voté pour lui.
Conservatrices, religieuses, évangéliques.
Et pas que, une question de classe sociale aussi. Il y a au Brésil, dans la défaite, mais ça c'est une petite parenthèse, dans la défaite de la gauche brésilienne qui a commis beaucoup d'erreurs.
Et
dans cette accusation, dans cette accusation de corruption, leur corruption, s'il y a des degrés dans la corruption, leur degré était peut-être moindre que les autres. Eh bien, mais il y a quand même une question de vengeance, c'est pas le mot, mais revanche sociale des classes dominantes brésiliennes. Et c'est une composition sociale qui est très portugaise, si vous voulez, lusitanienne, parce que le Brésil, c'est un pays extract portugaise, et c'est un peu plus atténué, un peu plus secret au Portugal, mais c'est à peu près la même chose.
Vous retrouvez des similitudes la psychologie collective du vote ?
C'est la même.
Ouais.
Et pour beaucoup de choses. Et donc, donc il y a cette question de revanche, il y a la question des évangélistes et des femmes qui sont inféodées à des églises d'une façon irrationnelle, sans raisonnement, d'une façon un peu sectaire et hypnotisée quasiment par le discours religieux. Et puis, il y avait d'autres raisons. Il y avait des raisons très spécifiques. La violence au Brésil. Il y a la violence générale. Il y a un meurtre toutes les 7 minutes au Brésil. Il y a autant de morts les 7 dernières années au Brésil, de morts violentes, volontaires et intentionnelles, qu'en Syrie, que dans la guerre en Syrie. 350 000, plus d'un demi-million sur 14 années. Donc vous voyez qu'il y a une progression d'année en année. L'année dernière, seulement 65 000 morts assassinés. Beaucoup des femmes. Il y a 60 000 viols par an de femmes au Brésil, c'est-à-dire qu'une femme est violée toutes les 7 minutes au Brésil aussi. Et ce chiffre-là, d'après les spécialistes, est sous-estimé.
Donc c'est une vie quotidienne pour les femmes qui est faite d'une inquiétude permanente.
Bolsonaro a essayé de répondre à cette inquiétude à sa façon. Il a promis de castrer chimiquement tous les violeurs, alors que lui, il considère que le viol n'est sans doute pas quelque chose de très important. Il a promis de castrer chimiquement les violeurs, tuer les gens qui tuent, Et il a trouvé un écho parmi les femmes qui étaient décidées à voter. Et voilà.
Malgré quand même l'immense mouvement des femmes contre Bolsonaro. Il y a eu quand même le groupe Facebook, pas loin de 4 millions de membres aujourd'hui. Là, le mouvement Elenao.
Et il y a eu beaucoup plus de millions de femmes qui ont voté pour lui.
On est d'accord. Ouais.
Et donc, c'est un problème immense aussi des partis politiques de ne pas répondre. Et puis, il y a autre chose au Brésil. C'est une société conservatrice. Et les élites, surtout, sont contre la légalisation de l'avortement qui a les maintenant au tribunal suprême. Elles sont contre le mariage homosexuel pour tous. Elles sont contre des avancées sociétales que même dans les sociétés les plus riches, les moins polémiques, les plus avancées du monde, restent des sujets de polémique. Alors dans des sociétés qui ont beaucoup d'autres problèmes, ça peut être un point de focalisation absolument
démoniaque. Alors on propose
démoniaque.
À Michelle Obama d'aller faire de la politique au Brésil si elle ne veut pas en faire aux États-Unis.
Pourquoi pas.
Ça serait une bonne idée. Mais c'est très bizarre, ça vient à ce que un avis en contraste de l'image que dégage de la société brésilienne d'habitude, quand vous parlez toujours des plages de Copacabana, de cette carnaval, fait que beaucoup d'enfants sont nés 9 mois après le carnaval. Il y a cette image que dégagent les Brésiliens d'être cool, d'être toujours prêts à faire la fête, qui va à l'encontre de cette image conservateur et hautement conservatrice que tu dépasses.
Je vais donner un petit exemple. L'indice de classification des classes socioprofessionnelles est pour la plupart des pays en fonction du revenu du foyer. Au Brésil, il y a cette classification et puis il y en a une autre, officielle aussi, qui tient compte d'un certain nombre d'éléments, dont le deuxième est le nombre d'employés domestiques dans le foyer.
Qui dit tout sur le train de vie ça et sur l'appartenance tout. De la famille.
Et ça dit tout sur ce que tu disais sur une question sociale et de standing.
Non, mais ça, c'est normal pour une société qui est émergente et pas développée.
Anna Fénon, la journaliste indienne.
Non, ça vient du 19e, du 18e, d'avant du siècle.
En Inde, penses-tu comment est-ce qu'on voit la richesse des classes? Comment est-ce qu'on définit la richesse des personnes?
Au nom
comment
des
est-ce
domestiques
que tu calcules
également?
Aussi.
Pas que la voiture.
Combien de gens est-ce
c'est
que vous employez?
C'est pas que par le revenu socioprofessionnel? Non,
c'est sur combien vous gagnez, combien de maisons est-ce que vous possédez, combien de domestiques est-ce que vous avez, combien de...
L'Inde, c'est aussi un pays de caste sociale.
Oui, mais je ne nie pas, mais la même chose est vraie. C'est la même chose qui est vraie pour le Zimbabwe, pour beaucoup d'autres pays, pour le Pakistan, pour d'autres pays.
Allez dire aux Brésiliens qui sont comme les Pakistanais, ils ne vont pas être contents.
Non, mais là, il y a quand même quelque chose que je trouve très important. J'ai pensé que pendant que je vous entendais vous battre, c'est avant les élections, le monde en dehors du Brésil était en ébullition. Ah, il va gagner. Ah, ça va être affreux. Qu'est-ce qu'on va faire quand il aura gagné? Eh bien, depuis qu'il a gagné, on n'entend plus rien. Aucune protestation,
On attend. Les chercheurs disent eux-mêmes, on ne sait pas ce qui va se passer.
Il n'est pas encore pleinement
au pouvoir. Oui, mais
quand même. Il est en train de former une équipe de transition.
Cette mobilisation qu'il y avait avant,
il est intronisé en janvier prochain. Oui, voilà. Donc voilà, vous connaissez on les médias. Vibeke Knupprachin, vous intéressez à l'une des sœurs de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Pourquoi donc?
D'abord, je crois qu'elle est, c'est un petit détail, mais c'est amusant, beaucoup plus universitaire, beaucoup plus diplômée que son frère. Mais bon, c'est pas l'objet du débat.
Ouais, il est passé c'est par Harvard a... quand même. Hein.
Comment ?
Son frère est passé par Harvard, alors je sais pas, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a
de plus... Quand il a commencé Facebook, c'était un petit... Bon, c'est pas grave. Mais
c'est un petit nerd.
Oui.
C'est ça. Ça veut dire elle est plus intellectuelle.
Voilà.
Elle est spécialiste de l'antiquité gréco-romaine. Voilà. Elle est passionnée par le latin.
C'est mieux dit. Voilà. D'accord. Elle a écrit un livre. Elle a, après avoir étudié ce qu'elle appelle la manosphère, qu'on pourrait traduire par homosphère sur Facebook, elle ne supportait pas de l'étudier plus d'une heure par jour. Ça lui a pris 2 ans.
parce que ce qu'elle a découvert, c'était épouvantable.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que sur
la masculinité, voilà, sur qu'est-ce qu'être un homme ?
Pas seulement, c'est aussi de dire que les femmes sont épouvantables et qu'on devrait peut-être même les tuer, enfin bon, en tout cas de les critiquer énormément. Et effectivement, il y a aussi le côté comment identifier un homme que l'on voit très très bien représenté en particulier par un mouvement qu'Anna connaît bien qui s'appelle les incels au Canada surtout et toujours au Canada.
Les célibataires involontaires.
C'est ça. Et aussi au Canada, un professeur de psychologie qui s'appelle Jordan Peterson et qui a plus de 60 millions d'adhérents, followers sur
YouTube. On l'a interviewé il n'y a pas longtemps dans l'émission. Effectivement, il reprend, il explique comment redevenir un homme dans ces sociétés où les femmes ont tous les pouvoirs.
Lui, c'est une star mondiale. Quand il est venu en Norvège il y a peu de temps, je me suis permis de critiquer un peu Jordan Peterson sur son côté politique, ses vues politiques. Je me suis fait lâcher.
Donc où est-ce qu'elle veut en venir, la sœur de Mark Zuckerberg ?
Elle veut arriver à dire que, en fait, avant, peut-être que, enfin, si on remonte loin dans le temps, on pouvait se battre contre les femmes. Et bien maintenant, on se bat contre elles sur Internet. Et que ça devient de plus en plus violent et de plus en plus insupportable.
Ouais. Merci à son frère.
Oui, justement, c'est un problème parce que c'est lui qui a créé Facebook.
C'est ça, les relations familiales doivent être houleuses. Veijo Naravan, Asia Bibi, est libre depuis le 7 novembre dernier, acquittée par la Cour suprême pakistanaise. Cette chrétienne, mère de 5 enfants, condamnée, emprisonnée depuis 2010 pour blasphème et toujours menacée de mort. Elle est en principe en sécurité au Pakistan, on ne sait pas bien où. Toute la question de savoir maintenant qui va l'accueillir avec sa famille.
Oui, libre mais toujours prisonnière, libre mais toujours vivant sur la menace de mort. Elle est obligée de changer l'endroit où elle vit de jour en jour pratiquement parce que les extrémistes veulent savoir où elle est et mettre leurs mains dessus. Et il lui promet un mort absolument terrifiante parce qu'on a promis qu'on va arracher ses jambes et ses mains, un par un, en public et tout le reste, si on met ses mains sur elle. Donc, elle est dans une situation d'extrême danger, d'extrême précarité, libre sans être libre. Et puis, effectivement, le gouvernement pakistanais ne fait rien. Le gouvernement pakistanais a cédé aux demandes de la foule parce qu'il a été complètement exonéré par la Cour suprême pakistanaise. Et il n'y a pas aucun autre pouvoir au-delà de la Cour pakistanaise. Mais maintenant, le gouvernement dit « Ah non, on va faire une revue, en fait, on va reconsidérer les plaintes contre Asia Bibi.
Ouais. Mais moi, je pensais que vous alliez pousser un coup de gueule sur Londres, qui a quand même refusé d'accueillir Asia Bibi sous la pression de groupes militants.
Je vais effectivement pousser un coup de gueule contre Londres parce que le consul général et l'ambassadeur britannique à Islamabad a carrément dit, et le Foreign Office a carrément dit, non, il ne faut pas que nous aidons Asia Bibi parce que si on donne le refuge à Londres, d'abord, il y a des groupes extrêmement influent pakistanais à Londres, qui fait partie de l'électorat. Il y a beaucoup, beaucoup de Pakistanais qui votent. Donc, ce sont des considérations politiques. De l'autre côté, malgré le fait qu'un groupe d'imams au Pakistan ont déclaré qu'il faut lui donner refuge, c'est le Foreign Office qui voit d'un œil très de travers le fait de donner refuge à cette femme parce qu'ils disent non, ça va créer une situation de déstabilisation. La présence ne va pas aider l'ordre public.
Moi, je vais en rajouter un coup sur Londres parce que franchement, ça devient indigne l'attitude de certains pays dont
en ce cas spécifique celui-là. La femme du prince héritier d'Arabie Saoudite s'est réfugiée à Londres à un moment donné, il y a pas mal d'années, avec ses 4 enfants, parce qu'il y a d'une violence extrême, violence conjugale, domestique extrême. Quand son visa a expiré, elle a dû revenir à Riyad, où elle est frappée tous les jours et elle est à l'hôpital tous les mois. Et ceci d'après un ancien chef de la sécurité du palais à Riyad. Eh bien, Londres lui a refusé une demande d'asile, justement pour ne pas être mal avec Riyad et avec l'Arabie Saoudite. La fille d'un cheikh, je pense, d'Abu Dhabi, les deux filles d'ailleurs, qui ont essayé de fuir le pays et les abus au sein de la famille régnante, et qui ont aussi vu refuser par Londres des approches, je ne sais pas s'il y a une demande formelle, mais des approches pour être réfugiés là-bas. Donc c'est vraiment indigne, et on commence à se demander qui va nous accueillir si un jour on a des problèmes.
Non, mais il y a deux sœurs saoudiennes qui se sont suicidées récemment aux États-Unis, dont les corps ont été retrouvés, parce qu'elles aussi, elles fuyaient d'une situation d'abus domestique, des choses
comme
ça. On
ne va pas non plus découvrir la géopolitique qui passe avant les droits de l'homme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le sort des femmes, effectivement, pèse très peu sur
par rapport à la géopolitique. Vibeke Knoprachine, vous voulez vous exprimer et nous réinterroger sur l'avortement qui est de nouveau en débat en Norvège.
Pas seulement en Norvège.
Oui, tout à fait. Mais pourquoi donc, quand même, dans une société progressiste, avec une femme certes conservatrice, mais une femme première ministre.
Oui, mais justement, c'est elle...
Parce que nous, on attend une femme première ministre depuis très longtemps.
Je suis bien d'accord, mais c'est elle qui, de façon extrêmement cynique, a utilisé l'argument de peut-être modifier la loi sur l'avortement politiquement. Et parce que en Norvège, il y a deux grands blocs gauche-droite, mais il y a aussi des petits partis. Et l'un des petits partis était tenté de changer de côté et donc du coup de renverser le gouvernement.
Donc pour des alliances politiques, est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'avortement est légal, hein?
Oui, bien sûr. Alors on parle
pour raison personnelle jusqu'à 12 semaines de grossesse.
Oui. Et ça peut être plus long, le délai, si on soupçonne que le bébé soit malade.
Donc, où se situe l'inquiétude, là?
L'inquiétude, c'est que ce délai-là soit raccourci, justement. Et elle dit que, enfin, les gens qui discutent autour de l'avortement, qui sont en faveur d'un changement de loi, disent que si on ne le fait pas, on va vers une société où on pourra choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un enfant qui est sain, ou est-ce qu'on accepte de mettre au monde un enfant qui a le syndrome de Downs, par exemple, ou autre maladie génétique ou autre. Et ça serait horrible qu'on ait une société comme ça où on peut, selon la santé du bébé. Il y a aussi en Norvège, on autorise, si vous êtes enceinte de jumeaux et que vous pensez que pour une raison ou une autre, ça va être trop difficile d'élever des jumeaux, vous pouvez avorter d'un jumeau sur deux.
Ouais. Ce qui évidemment n'est pas possible en France, par exemple, et dans de nombreux pays d'Europe. Mais alors du coup, ça veut dire, vous, quelle est votre position là-dessus?
Moi, personnellement, je ne veux pas qu'on touche d'un cheveu à la loi sur l'avortement que nous avons, pour lequel nous avons combattu depuis des années et qu'il ne faut pas changer. Elle est bien comme elle est.
Anna Navarro.
Cette vague de conservatrice fascisante, mais j'ose dire ce mot, mais évidemment adaptée au XXIe siècle, pas comme dans les années 30 au XXe siècle, eh bien, elle commence un peu partout par le contrôle des corps des femmes.
Exactement.
Et ça, c'était absolument inadmissible. Je me souviens d'une question, on a parlé tout à l'heure de ce juge nommé à la Cour suprême américaine, de la femme qu'il a accusée de violence sexuelle, mais je me souviens de son audience au Sénat, il y a une sénatrice californienne qui lui demande, est-ce qu'à votre connaissance, il y a aux États-Unis ou dans le monde, une loi qui contrôle le corps des hommes, comme il y en a des lois qui contrôlent le corps des femmes? Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas aux États-Unis. Et lui, il ne voulait pas répondre à cette question, surtout pas, parce que le parallèle était trop évident. Contrôler le corps des femmes, la volonté des femmes disposer de leur corps, et non seulement une chose qui est restée dans les mœurs, mais en plus qui devient de plus en plus imposée. Tandis que contrôler le corps des hommes, mais ça, ça n'entre même pas dans la capacité de penser d'un homme qui croit à ces idées-là. Et c'est ça qui est extrêmement préoccupant, parce que derrière le contrôle des femmes, et par peut-être des petits pas comme en Norvège, toucher un petit pas à la loi, et puis on touche encore un peu plus, puis encore un peu plus, le principe de la grenouille dans l'eau chaude qui va finir ébouillantée.
Moi, je me fais le porte-parole des hommes. La pénalisation des clients de prostituées, ça peut être une loi qui contrôle le corps des hommes, hein, si on cherche bien. Mais bon.
C'est un peu.
Tiré par les cheveux, pas tant que ça, peut-être.
Non, la question est beaucoup plus fondamentale. Parce que le corps de la femme, c'est le corps où est créé, effectivement, et où naît la vie et l'être humain. Et pensons à l'histoire et pensons à toutes les guerres quand les population entière était décimée et qu'après il fallait repopuler le truc. Si vous n'aviez pas le contrôle sur le corps des femmes, vous n'auriez pas pu repeupler votre nation ou quoi que ce soit. Donc la question du contrôle des femmes est une question tout à fait ancienne dans chaque religion, dans chaque système politique.
Et on y revient d'ailleurs régulièrement dans cette émission avec vous, les tchatcheuses. Est-ce qu'on peut s'approcher de la fin de l'émission lentement mais sûrement et avec un peu plus de légèreté, Anna Navarro-Pedro? On va parler de ce Hollandais qui rêverait de changer, non pas de sexe, mais d'âge légal.
Et si je vous disais que je ne vieillis pas, mais que je deviens plus jeune que tout le monde?
Et si c'était possible, Anna Navarro-Pedro, après le changement de sexe légal, et si on changeait d'âge? Un Hollandais de 69 ans a saisi la justice de son pays avec une demande jamais entendue, à ma connaissance. Hein. Il veut légalement changer d'âge. Ce type s'appelle Emile Ratelband, il a 69 ans.
Et oui,
ça vous fascine.
Ça me fascine sur plusieurs aspects. C'est une personnalité de la télé, c'est un gourou, un coach, un entrepreneur.
Développement personnel, hein. Voilà. Il fait plein de conférences là-dessus.
Exactement. Et le gars, il a saisi la justice de son pays très sérieusement en disant « je veux avoir 20 ans de moins ». Je l'ai fait physiquement. Mon médecin me dit que c'est pas seulement d'apparence qu'internement je fais 20 ans de moins, que je n'ai pas biologiquement 69 ans mais 49 ans. Et puis il dit... Et puis, sa première excuse, c'est sur Tinder, qui est un site, je pense que tout le monde connaît, un site de rencontre affectueuse, on va dire. Si je donne mon âge, personne ne répond à mes annonces. Si je vais dire 49 ans, tout le monde va me répondre. Ensuite, il enchaîne. Il dit, si vous voulez travailler à 69 ans, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas faire un prêt à la banque. Vous êtes au banc de la société. Il a dit, si c'est possible de changer de sexe.
Donc il a fait une demande réelle à l'officier municipal de sa mairie pour changer sa date de naissance cet été. Évidemment, l'officier municipal a dit bah, pas question. Il a saisi la justice.
Il a saisi la justice qui se penche sur le cas, le verdict dans quelques semaines. Et c'est assez sérieux parce que ça mène aussi à une réflexion. il dit si on peut changer de sexe, pourquoi ? C'est-à-dire si biologiquement on peut se dissocier de sa naissance, pourquoi on ne peut pas aussi se dissocier chronologiquement ? Par rapport à la date de naissance. Et là, ça pose beaucoup de questions sur notre société, évidemment, que remet en question ce qui nous était attribué à naissance, ce qui est très bien. Mais en même temps...
Je me sens assez séduite par l'hypothèse d'un changement d'âge.
Non, pas du tout. En même temps, je trouve que le juge a posé une question intéressante. Il a dit, mais comment voulez-vous effacer 20 ans par rapport à vos parents ?
C'est beaucoup.
Et il a répondu, mes parents sont morts.
Bijou.
Oui, c'est très intéressant, mais ça va vers ce dialogue ou vers cette attitude de notre société qui est très anti-âge, en quelque sorte, où on veut rayer tout qui semble être vieux, passer le sell-by date, la date à laquelle la date limite de vente, en quelque sorte. Et je trouve tout le côté du vieillissement, c'est-à-dire l'accumulation de l'expérience, la sagesse qui pourrait, hein, je le mets au conditionnel, qui pourrait sortir de cette accumulation, est mis en question.
Ben moi, je trouve que, oui, c'est intéressant, mais je suis plutôt d'accord avec Vaijou que, et puis, c'est, en tout cas, c'est mon principe personnellement, c'est qu'il faut assumer l'âge qu'on a et que, par exemple, je suis aussi contre toutes les opérations esthétiques pour paraître 20 ans de moins. Ouais.
Bon, mais vous n'êtes pas affolé par la demande en justice. En tout cas, réponse, verdict du tribunal dans 4 semaines. Vous restez avec nous, les tchatcheuses. Reportage d'Alice Milo, le speed dating ou les rencontres TGV sous hypnose.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le speed dating ?
Oui.
Oui, bon, il s'agit de rencontres chronométrées entre célibataires. Je crois que ça a été inventé aux États-Unis. Oui. À mon avis, c'est forcément là.
C'est
un homme, une femme, ils ont 5 minutes pour se séduire avant de changer de partenaire. Et puis à la fin, bah, on sait avec qui ça peut matcher, avec qui ça peut marcher. L'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives, réinvente le concept en proposant des speed dating sous hypnose. Le tout premier a eu lieu mi-octobre dans un café du 13e arrondissement à Paris. Avant de se rencontrer, les 20 candidats ont été hypnotisés collectivement. C'est un reportage d'Alice Milo, bien réveillée.
Vous êtes ici pour vivre un moment unique et agréable. Vous allez trouver facilement les mots pour vous exprimer. Vous pouvez vous sentir beau, car vous êtes beau. Vous pouvez vous sentir séduisant et être séduisant. Pour cette journée, votre timidité s'envole et le dialogue peut s'installer. Allez-y, à votre rythme, ouvrez les yeux, tranquillement.
On y va, c'est parti, et on vous dira, on change, et quand on dit on change, les garçons, vous changez de place. Vous devez voir toutes les leurs. Ok, c'est parti, feu.
Enchanté.
Enchanté.
Tu t'appelles comment ?
Samantha et toi ?
Lucien.
C'est normal.
D'accord. Voilà. Okay. Ok, tu fais quoi dans la vie ?
Je suis barmaid. Et toi ?
Je fais de la musique.
Ah bien, tu fais quoi comme musique ?
Je fais du rock.
Ah, depuis longtemps ?
Ouais, depuis longtemps. Depuis c'est toute ma vie.
Alors moi je suis Eric Pornin et donc c'est moi qui suis à l'initiative de cette journée. En fait l'idée c'est de mettre les gens 5 minutes sous hypnose, en leur faisant faire une transe pas trop profonde, on essaye de faire en sorte qu'ils soient capables de s'exprimer, de pouvoir poser des questions intelligentes, d'écouter l'autre, d'être désinhibé pour vaincre un peu la timidité, parce que c'est les gens qui font des speed dating, en général leur problématique c'est ils ont peur. Vous installez, vous avez 5 minutes pour parler à un être humain que vous n'avez jamais vu, autant vous dire que c'est carrément mission impossible. Même pour quelqu'un qui n'est pas timide, c'est dur. Donc imaginez pour quelqu'un qui est timide et qui a du mal à rencontrer quelqu'un. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on accélère le processus parce que les gens sont détendus, plus décontractés, plus apaisés aussi que dans un speed dating normal où on a l'impression que, encore une fois, c'est un entretien d'embauche. L'idée, c'est pas de téléguider les gens. L'idée, c'est que les gens soient désinhibés, ce qui est très différent, mais sans boire de l'alcool. C'est-à-dire, on ne boit pas d'alcool, mais on est bien, on est soi-même, on a envie d'affronter l'autre, peut-être qu'on affronte mieux ses propres peurs. Donc on leur redonne une espèce de force pour essayer quelque chose de nouveau. C'est bien, il faut tenter des choses dans la vie.
J'ai dit on change.
Ben, je trouve qu'il y a quand même des gens très intéressants. C'est vrai que le fait d'être hypnotisé, mais sans vraiment être dans un état second, ça détend, ça libère. Moi, je me sens plus souriante, plus accueillante, pas timide. Et comme les gens, ils sont aussi un peu dans le même contexte, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'oser poser des questions que peut-être je n'oserais pas poser si j'avais pas été dans ce cadre-là, quoi.
Comme quoi, quelles questions on ose poser ?
Moi, j'y vais cash. C'est-à-dire, c'est pas que je fais un interrogatoire, mais à la limite, ça pourrait être pris comme ça dans un autre contexte. Je demande, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce que t'attends d'une femme ? Quelle est ta situation sentimentale actuellement ? Des choses qu'on n'ose pas dire la première fois qu'on rencontre quelqu'un, parce qu'on ne veut pas faire fuir et puis parce qu'on a peur de gêner.
Est-ce qu'aujourd'hui tous les moyens sont bons pour rencontrer l'âme sœur ?
Tous les moyens sont bons parce que c'est de plus en plus difficile de rencontrer. Dans Paris, c'est très compliqué parce que vous voyez les gens une fois, jamais deux, donc impossible de créer du lien. Quand on est dans une petite ville de province, on finit par croiser les gens, les recroiser et on peut, on va dire, sympathiser et plus. Que dans Paris, c'est très difficile. Si c'est pas dans le cercle amical ou professionnel, pour moi, c'est du consommer tout de suite. Vous sortez dans une soirée, vous voyez une personne une fois, ben, vous la revoyez plus jamais.
C'est quoi votre histoire à vous ?
Oh ben, écoutez, moi, je suis une célibataire malheureusement endurcie. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'ai subi. J'ai pas trouvé de gens qui étaient libres au moment où moi je l'étais. La personne n'était pas libre, donc moi, si c'était pour avoir une double vie et être la maîtresse de l'ombre, ça ne m'intéressait pas du tout. Les années ont passé et petit à petit, bon ben, maintenant, j'ai plus envie que ce soit un état qui perdure trop longtemps.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et vous allez simplement vous réveiller. 1, 2, 3, vous vous réveillez. Maintenant.
Et ben voilà, entre le changement d'âge légal et le speed dating sous hypnose, toutes les chances à mettre de son côté pour rencontrer l'autre.
Et oui, bah ça désinhibe peut-être, mais ça n'enlève pas le compliqué. Donc voilà, il reste peut-être l'espoir pour rester humain.
Vibeke.
Alors, deux conseils. Le type hollandais qui veut changer d'âge, il peut peut-être essayer ça et économiser pas mal d'honoraires juridiques. Et l'autre qui a créé ce centre ou je ne sais pas quoi, bah c'est clair que quand il dit qu'il veut essayer d'autres choses, c'est pour gagner plus d'argent. Quoi.
Je crois qu'en Inde, on devrait essayer des choses comme ça. Ça fera beaucoup de bien à beaucoup de femmes qui sont drôlement contrôlées par leur famille.
Merci à vous les tchatcheuses. Vous revenez à ce même micro quand vous voulez, et évidemment le mois prochain, puisque chaque mois c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Les voisins, j'en profite pour vous signaler que on sera à Dakar jeudi prochain au Grand Théâtre pour parler de l'éducation et de la formation en Afrique. On parlera des écoles privées, des universités, du prix des études, des bacheliers qui attendent leurs affectations et de tous les problèmes qui touchent vos études. Envoyez-nous un message WhatsApp par écrit dès maintenant si vous voulez participer à l'émission. 33 1 84 22 71 71, sinon vous nous contactez sur Facebook à la page des 7 milliards de voisins. On vous attend nombreux jeudi 22 novembre à 9h au Grand Théâtre à Dakar, et le lendemain on sera à l'université Alioune Diop de Bambay. Nous viendrons avec des entrepreneurs sénégalais qui raconteront leur parcours, leurs difficultés, l'occasion pour vous bien sûr les jeunes de dialoguer et d'apprendre de leurs expériences et de leurs difficultés. Ne manquez pas donc ces deux rendez-vous à Dakar, à Bambay, 22 novembre, 23 novembre. Toutes les infos sont sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Michael Simon. Demain, 7 milliards de voisins. À quoi servent les punitions ? Quelle valeur éducative ? À demain les voisins et les voisines, dans quelques secondes le journal.